politique.
Bonjour, après Jean-Pierre Le Goff, la semaine dernière, nous allons à nouveau parler de mai 68, des événements de mai 68, comme on dit, essayer de comprendre ce qui s'est passé durant ce mois qui a marqué l'histoire de la France, d'une contestation étudiante à une grève générale. Dans un livre précis, notre invité Emmanuel Loyer revient au fait, rien qu'au fait, à cette révolution dans la rue, certes, mais aussi dans les mots, écrit-elle. Cet ouvrage, ce regard, s'appuie en effet sur des textes. Nous revendiquons cette posture modeste qui, par sa forme même, comporte une homologie réjouissante avec un mouvement très soucieux de ne pas se laisser récupérer, endiguer, spolier par les spécialistes, ajoute Emmanuel Loyer. Voici donc une nouvelle diffusion du magazine Idées, un magazine que vous pouvez aussi retrouver podcasté sur l'application RFI Pure Radio et sur notre site www.rfi.fr. Bonjour Emmanuel Loyer.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro. Vous êtes historienne, professeure à Sciences Po à Paris, spécialiste d'histoire culturelle et politique du XXe siècle, et on vous doit notamment une biographie de Claude Lévi-Strauss et une brève histoire culturelle de l'Europe, des livres publiés chez Flammarion, comme celui qui va être au cœur de notre conversation, l'événement 68, publié en poche dans la collection Champs Histoire. Et dans ce livre, notamment, vous faites la liste des grands slogans de mai 68, et il y en a un que je voudrais mettre en exergue pour commencer cette émission, Emmanuel Loyer. Appuyons-nous sur nos idées, elles finiront bien par céder. C'est formidable, non?
Oui, bah c'est vrai que c'est un... Je cite tout un tas de slogans parce qu'on en connaît quelques-uns, mais finalement très peu. Et c'est vrai que 68 se caractérise aussi, je trouve, par une très grande inventivité dans le langage, avec une langue politique inédite. Et souvent assez drôle.
Plein de trouvailles, oui.
Plein de trouvailles. Et c'est quand même assez rare dans la langue politique française et même internationale. La révolution, le langage révolutionnaire marche assez peu souvent avec le côté ludique, si vous voulez. Même si je sais que sous la Révolution française, il y a aussi le père Duchesne, etc. Mais c'était une chose qui m'avait beaucoup frappée et qui me frappe encore que ce rapport ludique au politique. Et puis, il y a aussi des très belle, par exemple, moi j'aime bien « La société est une fleur carnivore » ou des choses comme ça. Donc ça fait partie aussi de cet événement 68 que cette langue.
Doit-on parler, Emmanuel Loyer, de révolution à propos de 68? J'ai lu le livre d'entretien qu'avait écrit à chaud Raymond Aron, qui lui parle de révolution introuvable.
Alors là, vous parlez d'un texte d'Aron qui est un de ces quelques textes écrits presque à chaud, hein, et qui est intéressant simplement, enfin pour différentes raisons, mais aussi parce qu'il y a quand même une sorte d'indécision sur qu'est-ce qui s'est passé.
Oui.
Donc les acteurs eux-mêmes se demandent ce qui s'est passé, les observateurs aussi, et puis finalement aujourd'hui aussi, cet événement, c'est peut-être ça.
C'est intéressant, c'est intéressant effectivement parce qu'on a l'impression parfois que les événements ont dépassé leurs acteurs en fait et que personne effectivement, à commencer par le monde intellectuel que vous connaissez bien, Emmanuel Loyer, n'a prévu quoi que ce soit de ce qui allait arriver.
Absolument. Mais c'est peut-être une des définitions de l'événement. Ça, là, on rentre dans une réflexion plus épistémologique, voire philosophique. L'événement, c'est en effet ce dont on peut donner raison a posteriori, mais qu'on ne peut pas prévoir. Parce que il aurait pu aussi ne pas avoir lieu. C'est-à-dire que, bon, on peut dire que la jeunesse est politisée, que, il y a une sorte de crise systémique de l'université française, avec des, il y a des raisons macro-sociologiques, mais n'empêche que, bon, voilà, si le 3 mai, il n'y avait pas eu la police, si le doyen n'avait pas appelé la police dans la cour de la Sorbonne, si le groupe Occident n'avait pas... Comme aujourd'hui, là, si par exemple, je suis assez frappée, s'il n'y avait pas eu, par exemple, les événements malheureux de Montpellier, on ne sait pas si... excusez-moi, je fais un grand bond aujourd'hui, mais parce que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il y a aussi, et ça je pense qu'il ne faut pas le cacher, une part de contingence dans tout ça. Et peut-être même que c'est ça qui définit l'événement.
Alors, ce qui est quand même là notable, c'est le contexte international, vous le rappelez dans le livre, hein, dans lequel s'est produit cette révolution, où se sont produits ces événements, un contexte international où les étudiants dans le monde entier se révoltaient, ou quasiment, hein, et pas simplement d'ailleurs à propos de questions universitaires.
Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que donc là, on est au contraire dans des logiques très larges aux États-Unis. Bon, quand même le rôle très important de la guerre du Vietnam et du scandale d'une certaine manière de ça. Dans des pays comme la France où on a connu les guerres de décolonisation, donc où le Vietnam, en plus c'est l'ancienne Indochine hein, chez nous. Mais donc il y a ce contexte, on dirait, international est en fait au cœur aussi des processus de politisation, on pourrait presque dire de radicalisation à l'époque de gauchisation d'un certain nombre d'étudiants qui sont très très scandalisé par ce qui se passe, plus ensuite des problèmes endogènes.
Bien sûr, et avec parfois des répressions sanglantes, comme à Mexico, par exemple, sans compter aussi le contexte politique. C'est Prague, hein, au moment où se déroulent ces événements en mai, il y a le printemps de Prague.
Oui.
Et il y a aussi, vous l'avez dit, le Vietnam, et 1968 en particulier, c'est l'offensive du Tet, donc c'est une page importante de la guerre du Vietnam, donc un contexte chargé, et il faut rappeler, doit-on le faire, que nous sommes en pleine guerre froide également. Hein.
Oui, alors, vous avez absolument raison et on voit bien là quand même qu'il y a une contemporanéité de différents éléments, disons, de tensions internationales ou de tensions à l'intérieur de chaque pays. En même temps, c'est difficile de leur donner exactement leur statut. C'est-à-dire que bon, le printemps de Prague, ça a commencé déjà il y a quelques années sur le plan culturel, une sorte de dégel. Ensuite, vous avez à partir de janvier vraiment des transformations politiques. Le moment où les chars soviétiques arrivent, ça c'est en août, donc c'est après. Mmh. Bon, alors dans quelle mesure ce printemps de Prague est en résonance avec ce qui se passe à Paris en mai 68, c'est pas évident. En fait, bon, il y a un certain nombre de circulation, hein, de. Mais alors, le Vietnam, c'est évident.
Vraiment prédominant, effectivement.
Et puis le Japon aussi.
Le Japon, oui.
Le Japon avec les Engakuren. Et peut-être dire aux auditeurs aussi, parce que nous, on est dans un monde très interconnecté, mondialisé. Mais à la fin des années 60, c'est déjà un peu le cas. C'est-à-dire que la télévision, en tout cas dans les foyers français, on voit, par exemple, les jeunes japonais courant casqués avec des bambous. Affronter les forces de l'ordre. Donc il y a déjà, disons, une médiatisation internationale de ce qui se passe un peu partout.
Et c'est dans ce contexte qu'un célèbre journaliste de l'époque, chroniqueur au Monde, éditorialiste, Pierre Viançon-Ponté, écrit un texte qui est devenu célèbre le 15 mars 1968 dans les colonnes de son journal, Le Monde, un papier, un article qui s'intitule « La France s'ennuie ». Je vous propose d'en écouter un extrait.
La jeunesse s'ennuie. Les étudiants manifestent, bougent, se battent en Espagne, en Italie, en Belgique, en Algérie, au Japon, en Amérique, en Égypte, en Allemagne, en Pologne même. Ils ont l'impression qu'ils ont des conquêtes à entreprendre, une protestation à faire entendre, au moins un sentiment de l'absurde à opposer à l'absurdité. Les étudiants français se préoccupent de savoir si les filles de Nanterre et d'Antony pourront accéder librement aux chambres des garçons, conception malgré tout limitée des droits de l'homme. Quant aux jeunes ouvriers, ils cherchent du travail et n'en trouvent pas. Le général de Gaulle s'ennuie. Il s'était bien juré de ne plus inaugurer les chrysanthèmes et il continue d'aller, officiel et bonhomme, du salon de l'agriculture à la foire de Lyon. Que faire d'autre? Il s'efforce parfois, sans grand succès, de dramatiser la vie quotidienne en s'exagérant à haute voix les dangers extérieurs et les périls intérieurs. À voix basse, il soupire de découragement devant la vacharnise de ses compatriotes qui pourtant s'en sont remis à lui une fois pour toutes de leurs affaires. Dans une petite France presque réduite à l'hexagone, qui n'est pas vraiment malheureuse ni vraiment prospère, en paix avec tout le monde, sans grande prise sur les événements mondiaux, l'ardeur et l'imagination sont aussi nécessaires que le bien-être et l'expansion.
Attention, les voilà. Quand je vois les motos sauvages qui traversent nos villages, venus de Californie, de Flandre ou bien de Paris, quand je vois filer les bolides, les cuirs fauves et les cuivres qui traversent le pays. Et le bruit, moi je pense à la rabarabarabara cavalerie, moi je pense à la rabarabarabara cavalerie. gagne la tourmente.
Alors Emmanuel Loyer, ça y est, nous y sommes en mai 68. Ce disque à cette chanson, La Cavalerie, est sorti le 9 mai 1968. On y lit par exemple cette phrase aussi, « J'aurai enfin tous les courages, ce sera mon héritage et j'abolirai l'ennui, encore ce mot, dans une nouvelle chevalerie. » L'ennui, la France s'ennuie.
Mais c'est drôle parce que ce texte qui est célèbre hein, de Vianson-Ponté est souvent interprété comme finalement la...
Une sorte de texte prémonitoire.
Bah, ça dépend, on peut l'interpréter ou bien comme un texte prémonitoire, ou bien de dire que les paroles journalistiques qui sont un peu sur le mode, de l'expertise et de la prémonition sont totalement nulles et non avenues parce qu'ils se trompent. Mais en réalité, moi, ce qui me frappe en écoutant ce texte, peut-être plus qu'en le lisant du coup, c'est aussi son côté, vous savez, Musset, Les Enfants du siècle, après Bonaparte. La France s'ennuie, la France de la Restauration.
La France désabusée, en quelque sorte.
Voilà. Alors là, c'est dit à plusieurs reprises. Après la France combattante gaulienne des années de guerre, de la résistance, la France réduite à ses frontières hexagonales, une petite France, hein, comme la France de la Restauration après l'Empire, une petite France qui n'est plus une France combattante, qui ne connaît plus la guerre, et qui s'ennuie dans la prose du monde, quoi. C'est très étrange, hein. Et alors, du coup, on peut envisager que, en effet, mai 68, mais ça, on pourra en reparler, parce que je pense qu'il a quand même visé assez juste par certains côtés, là, Vianson-Ponté, mai 68, comme une sorte aussi du côté de la jeunesse, une volonté d'en découdre, une volonté de connaître l'exaltation de l'histoire avec un grand H.
De connaître une nouvelle chevalerie, comme l'écrit Julien Clerc dans sa chanson.
Voilà, une nouvelle chevalerie. Là hein aussi, c'est une nouvelle chevalerie, là. C'est intéressant comme expression.
Emmanuel Loyer, vous qui êtes spécialiste aussi de l'histoire culturelle, vous notez aussi, là nous sommes dans l'introduction, le climat de 68, avant que n'éclatent ces émeutes, il y a aussi une influence des intellectuels que vous citez. Vous reprenez quelques textes, plus ou moins contemporains à 68, en tout cas dans les années 60, Bourdieu par exemple, Castoriadis, moins peut-être Marcuse, mais enfin quand même il y a pour une part des étudiants une petite part sans doute, mais cette influence est là.
Oui. C'est-à-dire c'est assez compliqué parce qu'il y a à la fois ces auteurs que vous citez qui vont notamment Lefort, Castoriadis, tout ça,
socialisme et barbarie.
Finalement socialisme qui anime cette revue donc qui existe depuis déjà longtemps mais qui permettent si vous voulez une sorte de transformation du marxisme classique et aussi une transformation de la vision des prolétaires on voit très bien dans les années 60 que les ouvriers de cette France des Trente Glorieuses ne sont pas les prolétaires qui vont faire la révolution et au contraire la révolution sera faite plutôt par disent-ils des figures d'intellectuels, d'étudiants. C'est là qu'aussi il faut voir que dès le début des années 60 la figure de l'étudiant devient une figure politique liée à l'engagement du monde étudiant pendant la guerre d'Algérie. Donc oui, Bourdieu aussi est une référence importante avec les héritiers, mais que à côté de ça, les grandes références intellectuelles du milieu des années 60, les gens autour du structuralisme, Lévi-Strauss, Foucault, même Lacan.
Deleuze, oui.
Deleuze,
oui.
C'est un peu après quand même. C'est au contraire des gens qui vont déserter 68 et donc il y a un rapport compliqué entre puisque on dit en 68 justement, c'est la revanche de Sartre sur Lévi-Strauss, etc. Donc c'est pas très simple, mais quand même, c'est vrai qu'il y a, je pense qu'on peut dire qu'il y a une sorte de bibliothèque idéologique commune d'un certain nombre d'étudiants européens.
Et 68 a eu plus d'effet après, chez les intellectuels.
En effet, 68 a eu un rôle important dans la conception aussi du savoir et le découpage des savoirs, notamment dans l'université. Par exemple, dans les sciences sociales, c'est très important.
C'est notamment l'importance de la sociologie.
Oui. Bah, beaucoup d'ex-68ards vont se recycler dans les études sociologiques et aussi transformer la discipline en, comment dire, je pense qu'il y a tout un rapport, disons, du sachant à l'ignorant, disons, le maître et l'ignorant qui est transformé par 68.
Oui, ouais. Le maître et l'élève.
Il faut écouter la parole des acteurs, etc. Tout ça, c'est un héritage de 68.
Alors, nous allons évoquer ce mois de mai maintenant sur le plan des événements, ce que vous faites aussi dans ce livre, l'événement 68, Emmanuel Loyer. Avec d'abord la fermeture de Nanterre qui a mis le feu aux poudres. À la suite du mouvement du 22 mars, le ton monte à Nanterre. Et ce qui fait que le doyen Grappin, à un moment, ferme l'université de Nanterre. Nous sommes au tout début du mois de mai. Écoutez ce reportage.
Pour que l'opinion publique soit alarmée, nous proposons de ce soir une occupation d'un bâtiment de la faculté de Nanterre. Nous sommes désormais décidés à mener la lutte pour que tous ceux qui sont victimes de la révolution soient libérés.
Depuis une demi-heure, la faculté des lettres de Nanterre a fermé ses portes. Pour le doyen, il s'agit d'une mesure qui a été prise à l'occasion d'agissements d'une minorité d'étudiants.
À partir de demain, vendredi 3 mai, 9h, et jusqu'à nouvel ordre, les cours et travaux pratiques de la faculté seront suspendus.
Cette décision du doyen a fait évidemment l'objet de nombreux commentaires. Ce soir, parmi les étudiants, Yves Mourouzi a rencontré l'un de ses étudiants très mécontent.
Le doyen a dit qu'il suspendait les cours. Il n'a pas parlé d'interdiction, qu'on vienne discuter politiquement. Si la faculté est fermée, si elle est gardée par les CRS, nous discuterons s'il fait beau dans l'herbe, nous discuterons dans le foyer de la cité. Mais nous voulons montrer notre volonté de discuter politiquement. Nous voulons montrer qu'il ne s'agit pas pour nous d'un débat puéril et que deuxièmement, dire que c'est une minorité ne veut absolument rien dire.
Quelle est la nature réelle du mouvement? La nature du mouvement est celle que des étudiants refusent leur fonction qui leur est assignée par la société, c'est-à-dire qu'ils refusent de devenir les futurs cadres de la société qui exploiteront plus tard la classe ouvrière et la paysannerie. Bon, ce refus se fait d'abord à l'université. Il est clair que le mouvement du 22 mars ne veut rester à l'université, mais qu'il veut s'étendre en dehors de l'université, c'est-à-dire essayer de faire une jonction dans la lutte avec les ouvriers ou les paysans en lutte. Voilà à peu près la nature du mouvement.
Alors on vient d'entendre Daniel Cohn-Bendit, là c'est Beatles, Revolution, c'est le ton émis aussi sur le plan musical à l'époque. Là, ça y est, on a l'étincelle qui a mis le feu aux poudres.
Oui, la fermeture de Nanterre va donc provoquer l'arrivée de ces enragés, comme on les appelait, à la Sorbonne. Et ensuite, les choses vont se dérouler, mais encore une fois, dans l'imprévisibilité totale. C'est-à-dire que, du coup, la Sorbonne, le doyen de la Sorbonne, comme je l'ai dit tout à l'heure, va appeler la police pour déloger les étudiants. Et ça, c'est quand même une mesure symbolique.
Plusieurs centaines de personnes vont être arrêtées à cette occasion.
Hein. Oui, ils sont arrêtés, ça se passe mal. Certains passent en conseil de discipline, etc. Donc ensuite, on rentre dans une sorte de cycle de contestation, répression et une répression d'emblée assez forte. On sait maintenant que la police a été quand même très déstabilisée devant ces jeunes étudiants. Ce qu'il faut voir, que les étudiants de l'époque, c'est pas les étudiants d'aujourd'hui. Hein. D'abord, ils étaient 600 000.
Et vous parlez en connaissance de cause, parce que vous êtes professeur et que vous voyez les étudiants à longueur d'année.
Oui, tout à fait, tout à fait. Non, les étudiants on voit bien d'ailleurs dans les archives de l'époque, c'est un peu des jeunes messieurs dames cravatés, en costume, qui parlent très bien. D'ailleurs, on mesure absolument l'éloquence rhétorique, je veux dire, redoutable, hein, de quelqu'un comme Cohn-Bendit. Ils sont pas du tout affolés de devoir discuter d'égal à égal avec le recteur. Et ce qui me semble important là, c'est aussi le fait que dans les paroles de Cohn-Bendit, une réflexion sur quel est finalement les étudiants, c'est quoi. Les étudiants ne veulent plus devenir les petits maîtres de la société à venir, dans cette espèce de sas du monde étudiant où on s'amuse, tout ça, et puis ensuite on devient des bourgeois finalement. Parce que les étudiants, globalement, c'est un moment, si vous voulez, où le monde étudiant, qui a été longtemps un monde extrêmement restreint, de fils de la bourgeoisie, s'est un petit peu ouvert aux classes moyennes. Ça, c'est depuis la fin des années 50. Et donc, vous savez, quand une institution comme ça se transforme, c'est là qu'elle se fragilise. Et c'est exactement ce qui se passe. L'enseignement, par exemple, des sciences humaines, puisque c'est là que ça craque, et notamment en sociologie, Cohn-Bendit était étudiant en sociologie, y a une sorte de contradiction dans l'enseignement en sociologie entre un enseignement de la sociologie, disons quantitativiste, qui va préparer ces jeunes gens à être des sondeurs, des DRH, on dit pas ça comme ça, mais c'est un peu ça.
Hein. Chef du personnel, disait-on à l'époque.
Et à côté de ça, il y a tout un apprentissage de la sociologie critique qui donc fait des étudiants, des jeunes intellectuels critiques de la société dans laquelle ils vivent. Et c'est vrai que cette tension explique aussi pourquoi peut-être c'est spécialement en sociologie, mais plus globalement dans les sciences humaines, que la contestation est la plus forte.
Ce qui est intéressant, c'est que le doyen de Nanterre, Pierre Grappin, n'était pas ce qu'on appelle aujourd'hui un réactionnaire en plus.
Non, il était
un ancien résistant, plutôt libéral, et c'est pourtant lui qui a mis le feu aux poudres.
Je pense que c'est quelqu'un qui a dû être un peu dépassé. Encore une fois, il a dû, pour des raisons de sécurité, etc.
Il disait à l'époque, le campus était devenu, je n'ose pas dire un chaudron de sorcières, mais un espace clos replié sur lui-même. Et ça inquiétait, effectivement.
Il faudrait revenir un petit peu sur ce qu'était Nanterre, parce que Nanterre, c'est une nouvelle université, c'est un campus moderne, entre guillemets, qui est fondé en 1964. Qui est donc, comme on le sait, dans la banlieue parisienne, c'est un des premiers campus hors des villes, comme ça va se multiplier en France, un peu à l'américaine, avec l'idée qu'il y a des pelouses, etc., différents bâtiments, et des résidences universitaires, autrement dit, où il y a des chambres d'étudiants, puisque ça part de ça. Mmh. Et en même temps, dans une banlieue pauvre, avec un bidonville à l'époque juste devant, très peu relié, c'est pour ça que c'est un îlot aussi. Il est quasiment pas relié par les transports publics. C'est très compliqué d'aller à Nanterre. Certains viennent en voiture. Il y a des trains de banlieue, etc. Et donc il y a cette espèce d'aspect, si vous voulez, très français, je trouve, de modernisation hâtive et en même temps très très délicate, parce que en même temps c'est une sorte de symbole. Il y a l'université, le bidonville en face, qui écluse finalement les traces de la fin de la guerre d'Algérie et de la nouvelle et de l'immigration nord-africaine pour le travail que nécessite l'économie française en expansion.
Alors cette arrestation à la Sorbonne de plusieurs centaines de personnes va là aussi aggraver les choses. Vont commencer les manifestations le 6 mai et dans les jours qui vont venir, les barricades vont être érigées dès le 11 mai. Je vous propose d'écouter un autre reportage, Emmanuel.
Enfin, c'est le 10 mai au soir. Hein. Ouais. Mais il y en a eu quelques-unes, mais vraiment la grande nuit des barricades, la première, c'est la nuit du 10 au 11 mai.
Alors je vous propose maintenant d'écouter justement un autre reportage qui rapporte cette ambiance de ces jours qui s'étalent entre le 3 et le 6 mai.
Inter-soir, le point des informations de la journée.
Problèmes universitaires, après la fermeture de la faculté de Nanterre, les cours ont été suspendus à la Sorbonne à la suite des manifestations d'étudiants extrémistes.
Il y a eu des scènes extraordinaires de violence dans les quartiers universitaires de Paris, et elles se poursuivent. Des barricades, des voitures brûlées, des étudiants qui bombardaient de pavés les forces de l'ordre, qui ripostaient avec des grenades lacrymogènes. Et nous allons tout de suite voir avec Jean-Claude Bourret, qui se trouve au quartier latin. Je pense que, comme vous l'avez entendu à 19h, il va pouvoir nous renseigner sur les manifestations.
Oui,
en direct. Vous êtes sur l'antenne.
Eh bien écoutez, Jean-Pierre Cabache, c'est absolument extraordinaire ce qui se passe ici. Nous sommes en plein boulevard Saint-Germain et trois fois les manifestants ont chargé les CRS, trois fois les CRS sont reculés. Et maintenant, en direct, comme vous le disiez tout de suite, les CRS chargent. Je suis en plein dans la charge des CRS, ils contre-attaquent tandis que les pierres volent autour de nous, que les grenades explosent. C'est extraordinaire ce spectacle. Et à deux pas de là, les manifestants refluent, tandis que autour de moi, les pierres tombent de tous les côtés. Vous entendez les CRS qui crient pour s'aider mutuellement. Mais vraiment, c'est une scène d'émeute extraordinaire.
À quel endroit du boulevard Saint-Germain vous trouvez-vous?
Eh bien, je me trouve devant le Mabillon, exactement. Mais je fais très attention, excusez-moi si je suis un petit peu essoufflé, parce qu'on est obligé de courir, de faire attention aux pierres qui tombent de tous les côtés. Je vois là-bas, des CRS qui sont parvenus au contact. Et il y a des coups très très sévères qui sont déchargés, et une nouvelle fois les voitures font les frais de l'opération, car les voitures ont été mises au travers de la roue. Voilà une pierre qui tombe juste à côté de moi. C'est absolument extraordinaire ce qui se passe ici, une scène d'une violence inouïe.
Comment les étudiants
sont lâchés, les gaz sont lâchés, ce ne sont plus des gaz lacrymogènes, ce sont des gaz d'asphyxiant, ou du moins des gaz qui font tousser, et je suis obligé de revenir un petit peu en arrière, car c'est très difficile de tenir.
que la provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, d'où nous sommes mis à crier.
La chanteuse que l'on écoute s'appelle Dominique Grange. Ça y est, nous avons plongé dans les manifestations entre CRS et les manifestants. D'ailleurs, dans votre livre, qui est un livre que je conseille, qui explique cette époque de tous les côtés, dans ce livre, vous vous interrogez aussi sur l'époque qui elle-même a interrogé sa police. Quelle police face à ces événements?
Oui, bah disons que les CRS, c'est une des figures de 68. Alors d'ailleurs, CRS-SS, ce n'est pas un slogan de 68, c'est un slogan qui vient des grandes grèves de 1947. Ce sont les CGTistes de l'époque, notamment, je crois, enfin en tout cas, c'est lié évidemment aux ouvriers de 47, donc ouais, les grandes grèves organisées au moment du début de la guerre froide, tout ça, qui ont pour la première fois énoncé ce slogan CRS-SS, qui est intéressant parce que on voit qu'en 68 il est repris spontanément, il est d'une certaine manière aussi contemporain de Nous sommes tous des juifs allemands, qui est énoncé pour la première fois le 22 mai lorsqu'il est question d'expulser Daniel Cohn-Bendit. Oui. Donc on voit là quelque chose qui je pense est important pour comprendre 68 et dont on a déjà un petit peu parlé, c'est-à-dire tout cet imaginaire de la Seconde Guerre mondiale de la part d'une génération de gens qui ont entre 20 et 25 ans, qui n'ont pas connu la guerre, mais qu'ils l'ont vécu, je dirais, par leur culture familiale le plus souvent. On n'est pas très loin de la fin de la guerre, on est 25 ans après la fin de la guerre, à peine.
Alors ce qu'il faut préciser, Emmanuel Loyer, et ça va de soi, mais je trouve qu'on ne le précise pas suffisamment, c'est que ce mouvement parisien s'est étendu à l'ensemble de la France.
Bien sûr.
C'était vraiment un mouvement en France, et pas simplement à Paris.
Ah oui, bon bah ça, les historiens des dernières années ont beaucoup insisté là-dessus. Hein. C'est un mouvement, évidemment... du côté des étudiants, le quartier latin est à l'époque encore la scène étudiante par excellence,
l'épicentre.
Mais quand même l'épicentre, exactement. Mais il y a les facultés de province. À Strasbourg, c'est très important, ça commence même avant mai 68. À Nantes, à Caen aussi, où en janvier 68, il y a l'inauguration de la fac de Caen et ça se passe mal avec Alain Perfit.
On en a parlé la semaine dernière avec Jean-Pierre Le Goff.
Il raconte ça. Bon, alors en même temps, il montre que ça va pas très très loin, mais enfin, du point de vue des étudiants. Hein. Mais du point de vue du reste du monde social, puisqu'on va, en avançant dans le mois, on va voir que ça s'étend, c'est pareil. Donc aujourd'hui, on voit les choses de façon beaucoup moins parisienne, en effet.
Ce qui est frappant, c'est la rapidité avec laquelle tout ça s'est produit. Hein. En oui. quelques jours, hein, vous faites d'ailleurs une chronologie dans le livre,
bah,
pour arriver par exemple le 13 mai à une grève générale. Le 13 mai, le mouvement a commencé le 3.
Bon, bah, le 13 mai, c'est vraiment lié à ce qu'on a entendu. Alors, je sais plus très bien, là, dans votre archive, exactement ce que ça. Mais les scènes, il faut voir que les Français sont complètement hallucinés par des reportages comme ça, où, en effet, on entend des scènes de guérilla urbaine, comme si, tout d'un coup, le Vietnam, c'était dans le quartier latin, avec des détonations, etc. Bon.
Et d'ailleurs, il faut souligner, Manuel, le rôle de la radio à l'époque. Là, c'est l'ORTF.
Absolument.
Mais à un moment, l'ORTF va être en grève, ou est plus que jamais sous contrôle. Ce sont les deux radios dites périphériques à l'époque, RTL et Europe 1, qui vont retransmettre en direct avec des voitures émettrices les événements, les manifestations, si bien que le pouvoir en place, le ministère de l'Intérieur, va empêcher, interdire à ces deux radios de continuer à émettre.
Tout à fait, mais enfin, elles ont un rôle essentiel, plus la radio que la télé, durant tout le mois de mai, ça c'est, vous avez tout à fait raison de le souligner.
C'est l'homme de radio qui parle.
C'est l'homme de radio qui parle. Non, c'est un grand moment pour la radio, mai 68, parce que c'est un moment où, déjà depuis quelques années, existent les transistors. Et donc un transistor, c'était encore assez récent, enfin ça date de début des années 60, mais beaucoup de gens sont dans les manifestations avec des transistors.
Et notamment pour écouter les discours de De Gaulle.
Les discours
24
de De Gaulle,
mai
mais
et
même,
le 30 mai.
Oui, tout à fait. À la fois les discours, mais aussi par exemple les négociations. Le 10 mai en question, là, le soir du 10 mai, il y a une négociation entre d'une part Jesmar, Cohn-Bendit et le doyen de la Sorbonne, Monsieur Roche, Eh bien ça, c'est retransmis, je sais plus si c'est Europe 1 ou RTL, et les manifestants qui sont là en train de commencer à construire des barricades, mais qui ne savent pas encore ce qui va se passer, l'entendent par le transistor. Donc un rôle très important de la radio.
Allô, Pierre Lantenac.
L'antenne?
Oui, tu l'as.
Oh, ben, Pierre Lantenac ici. Je dois dire que la tension qui tout à l'heure déjà était très grande, cette tension n'a pas baissé. Autour de moi, eh bien, les étudiants sont toujours présents. La chaîne est toujours là. On travaille. Il n'y a pas qu'un seul blessé.
Il y en a 40 blessés.
Bien. Vous voyez, je suis entouré et chacun essaie de me donner des informations. Effectivement, il y a certainement de part et d'autre.
Qui balance des OF.
Bon, vous entendez, vous entendez.
Oui.
On fait un appel aux Parisiens.
Non, enfin, c'est inutile de faire un appel aux Parisiens. Nous sommes là pour donner l'information pure.
Idée, la parole à ceux qui pensent le monde.
Alors, vous intéressez dans un chapitre, Emmanuel Loyer, à ce que vous appelez les formes politiques nouvelles, et vous écrivez « Le mouvement de mai désarçonne, car la contestation est menée par des acteurs qui ne sont ni les professionnels, ni les acteurs classiques de la contestation.
Ben, » C'est-à-dire ni les partis, ni les syndicats. Aussi bien d'ailleurs du côté du monde étudiant que du côté du monde, de façon encore plus évidente, du côté du monde ouvrier, très souvent... Enfin, pratiquement tout le temps, ce sont des jeunes ouvriers qui vont débrayer. Du côté de l'ouest de la France, c'est souvent un monde encadré par la CFDT, qui était un jeune syndicat né quelques années auparavant de la déconfessionnalisation du syndicat chrétien, hein, de la CFTC. Ouais. Mais à côté de ça, c'est plutôt la CGT, par exemple, qui était majoritaire dans le monde ouvrier, n'est pas... immédiatement aux manettes, elle va évidemment au fur et à mesure essayer de reprendre en fait la main sur la contestation, mais les syndicats sont quand même très dépassés par ce qui se passe et vont constamment essayer de à la fois de délégitimer les gauchistes, disons les chevelus comme ils les appellent, et puis du côté évidemment du monde politique traditionnel, ça c'est une autre chose qui caractérise 68, c'est le politique est un peu hors jeu. Jamais les étudiants, par exemple, ne vont occuper l'Assemblée nationale ou le Sénat. Pas du tout, ça les intéresse pas.
Alors, il faut préciser que les syndicats, donc, qui décident, notamment la CGT en tête, de déclarer cette grève générale en France, vont négocier ce qu'on appelle les accords de Grenelle, qui vont commencer à la fin mai, 25-26 mai. Donc il y a à la fois cette contestation étudiante et à la fois cette contestation sociale générale. Alors qu'au début, ça part avec les étudiants.
Oui, c'est ça qui caractérise vraiment l'unicité par rapport à ce que vous disiez sur l'internationalisation de ces luttes étudiantes. Le mai 68 français est une sorte de symbole et en même temps de symbole éclatant, si on peut dire, et en même temps d'exception, parce que ni aux États-Unis, ni en Allemagne, le monde... ouvrier à emboîter le pas de la même façon. Là, on a quand même un pays qui, pendant 15 jours, 3 semaines, est complètement arrêté. Hein. C'est un moment tout à fait particulier.
Ah, il faut rappeler
de grève générale.
Grève générale, plus d'activité, plus d'essence, un pays paralysé, plus de train, plus de... une paralysie. Quoi.
Alors l'essence, il y en a quand même toujours un petit peu, en fait. Mais enfin bon, disons, en gros, c'est ça.
Oui, oui.
Et là, ça, c'est tout à fait spécifique à la France.
Alors je voudrais qu'on aborde un autre sujet, puisqu'on vient de parler des syndicats et de la grève générale et des ouvriers. Un autre chapitre important qui est le chapitre relations entre les étudiants et les ouvriers, Emmanuel Loyer, que vous étudiez aussi, ouvriers d'ailleurs et paysans, et étudiants, que vous étudiez dans le livre. Je vous propose d'écouter cette dernière archive pour nous replonger une dernière fois dans l'époque.
Le monde ouvrier, à son tour, entre en scène. Les ouvriers de Renault, comme ceux de Sud Aviation à Nantes, occupent les usines. L'usine de Boulogne-Billancourt est occupée après celle de Flins. À l'intérieur de l'usine, les meetings se tiennent autour des délégués syndicaux. Cependant, des orateurs déclarent « Les étudiants veulent rendre plus humaines leurs universités et nous, travailleurs, nous voulons rendre plus humaines nos usines. » Un cortège arrive du quartier latin. Les étudiants veulent établir la jonction avec les ouvriers.
Camarades étudiants, les travailleurs en lutte de chez Renault ont appris avec satisfaction votre mouvement de solidarité de ce soir. Nous sommes évidemment tous d'accord qu'il faut maintenant que les choses changent, mais il faut qu'elles changent non pas dans l'anarchie, mais dans un mouvement puissant, organisé.
Alors comment expliquez-vous que ce mouvement ait démarré en même temps que le mouvement des étudiants?
Ça a facilité la chose.
Vous savez, il suffit suivant de peu de choses pour démarrer un mouvement. Les étudiants sont partis en flèche pour leurs revendications propres. Nous partons pour les nôtres.
Et est-ce que vous avez des conversations avec eux actuellement?
Oui, nous avons des conversations. Ils sont là presque tous les midis. Ils vont venir encore cet après-midi, paraît-il.
Et est-ce que vous les avez acceptés dans l'usine?
Non, nos responsables syndicaux.
Il y a que des gens de chez Renault qu'on doit rentrer dedans.
C'est pour ça qu'il y a le bordel dans les universités, c'est pour ça, c'est ça que les étudiants refusent.
Parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul objectif, c'est liquider le patronat. Hein? Bon.
Comment on va le virer avec
les étudiants de la fin générale?
C'est le mot du début.
C'est pas les patrons, c'est le conseil ouvrier qui doit diriger l'usine.
Les conseils ouvriers, mais vous tous, évidemment, vous pouvez.
Non, pas les ouvriers.
Patron, vous ne connaissez pas. Ouvrier, ne connaît pas. Ça ne voudra plus rien dire. C'est ça qu'il faut. C'est à quoi il faut vous dire.
Emmanuel Loyer, dans votre livre L'événement 68, vous écrivez ceci: l'articulation du mouvement étudiant et des grèves ouvrières est la grande spécificité du mai français, d'une certaine façon, son grand mystère.
Je dis son grand mystère parce que d'abord, aujourd'hui, on réévalue un petit peu à la hausse ces formes de jonction, mais en même temps, votre archive le montre très bien, les étudiants vont à la rencontre des ouvriers, mais chacun chez soi quand même. Il rentre pas forcément dans l'usine. Il y a certains lieux où on sait, on a des traces de véritables discussions. Par exemple, ici, Sud Aviation, qui est une des premières usines à Nantes, hein, là encore, on n'est pas dans la région parisienne, le 14 mai, qui débraye, qui occupe... Là, manifestement, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose de l'ordre d'une vraie discussion. Mais sinon, on comprend très bien, là, en écoutant l'archive, que, en fait, c'est un syndicaliste vraisemblablement de la CGT qui dit les étudiants ont leurs revendications, nous, on a nos revendications, il n'y a pas du tout... c'est une petite convergence des luttes, mais pas tellement. Donc, on a tendance peut-être à... Alors là, c'est très discuté, si vous voulez, d'évaluer vraiment dans quelle mesure il y a eu une sorte de jonction... de discussions intellectuelles aussi. La plupart du temps, les ouvriers voyaient aussi les étudiants comme des fils de bourgeois qui s'amusaient 5 minutes à faire la révolution, mais qui, quand ce serait fini, seraient leur futur patron. Il y avait aussi cette image très forte. Et encore une fois, les étudiants, c'est pas les étudiants d'aujourd'hui. On est dans une France où aller à l'université, c'est encore un privilège réservé à une minorité, malgré l'élargissement déjà. Alors, juste un mot, parce que j'ai parlé de la CGT et de la CFDT. À un moment donné, il dit, on entend parler de conseil ouvrier, etc. Finalement, quand même, le syndicat qui est le plus en résonance avec, je dirais, l'esprit de 68, c'est vraiment la CFDT qui va, au milieu du mois de mai, prononcer le mot, lancer un peu le mot d'autogestion dans... je dirais, le nouveau lexique politique français.
Alors, autogestion, qui est aussi une notion qui est reprise en quelque sorte par De Gaulle, avec sa participation, son fameux discours, les propositions qu'il fait dans son discours du 24 mai, qui va être un flop, à l'issue duquel tout le monde va dire adieu De Gaulle, parce qu'il propose un référendum et tout le monde est persuadé que ça sera non. C'est une notion qui commence effectivement à apparaître. Et d'ailleurs, sur le plan politique,
je pense pas qu'il parle de la même chose.
On sent qu'il y a le désir de changement. Il a compris le qu'il y avait un changement qui s'opérait. Sur le plan politique, on connaît effectivement la fin de l'histoire, mais le 24 mai, le discours fait flop. Mais comment expliquer que le 30 mai, c'est-à-dire une semaine plus tard, le général de Gaulle, s'adressant à nouveau aux Français, alors là, provoque une mobilisation. On dit que quelques jours plus tard ou le lendemain, il y aurait eu 1 million de manifestants pro-de Gaulle sur les Champs-Élysées. Comment expliquer qu'à une semaine d'intervalle, il y a cette si grande différence d'impact?
Mais d'abord, encore une fois, en mai 68, comme je dirais, peut-être on trouvera la comparaison osée, mais pendant la Révolution française, où c'est vraiment chaque jour a son lot d'imprévus et qui a des conséquences. Bon, le 24 mai, c'est un flop parce que le référendum paraît un outil usé du gaullisme, si vous voulez, plébiscitaire, etc. Entre-temps, il y a toute une scénographie politique, il disparaît, il va à Baden-Baden, il revient. Et le 30 mai, c'est le De Gaulle, je dirais, de combat, hein, qui utilise là encore la radio, hein, qui est le média qui rappelle aux oreilles des Français d'un certain âge le 18 juin 40, la voix gaullienne, et qui, là, annonce la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais comment expliquer cette mobilisation ? Donc là, ça marche. Il est certain qu'il y a aussi un phénomène de rattrapage de tout un tas de gens qui, depuis quand même la grève générale, c'est-à-dire, encore une fois, depuis, en gros, mi-mai, ouais, hein, ça commence au 14 mai, ouais, et puis vraiment le 20 mai. Bon, il y a des Français qui commencent à être dans la panique, hein. Donc, il y a aussi une sorte de phénomène comme ça de...
Oui, puis il y a le contexte aussi. Il y a le Parti communiste qui manifeste, qui montre qu'il est là. Il y a la CGT qui est...
Enfin,
qui
le PC est pas vraiment là le 30 mai. Le 30 mai, si vous voulez, ce qui est très étonnant, c'est que le 30 mai, finalement, c'est aussi la grande réconciliation des droites. N'oubliez pas que De Gaulle était mal vu par l'extrême droite à cause de l'Algérie française. Et là, il est allé à Baden-Baden, il a vu un certain nombre de généraux ex-félons de l'Algérie française, et on voit le 30 mai que toute une partie finalement de la frange très droitisée qui ne pardonnait pas à De Gaulle d'avoir laissé tomber l'Algérie. Là, tout d'un coup, est récupérée. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on parle de la fameuse majorité silencieuse, hein, c'est-à-dire, en gros, bon, ben voilà. Ce qui est amusant, si vous voulez, c'est que, par exemple, dans Paris, le quartier latin est à feu et à sang, mais il y a toute une partie de la ville, dans les quartiers 16e, 17e, etc., finalement, il voit rien. Bon, donc il y a toute une partie aussi de la France, à ce moment-là, qui est un peu terrorisée, paniquée, et qui décide de se montrer.
Ouais. Et donc, les événements ont continué, contrairement à ce qu'on dit, début juin, progressivement le travail a repris. Il y a eu d'autres incidents, hein, je pense notamment à la mort de ce jeune Gilles Totin, mort le 10 juin. Mais je voudrais qu'on termine, Emmanuel Loyer, un petit peu avec avec le thème qu'on a abordé au tout début avec les slogans. Vous analysez, vous reprenez une belle phrase de Michel de Certeau, le philosophe, historien jésuite, qui disait, la phrase est magnifique, je trouve, en mai dernier, c'est-à-dire en mai 68, on a pris la parole comme on a pris la Bastille en 1789.
Oui.
La parole est très très importante.
Hein. C'est le titre de son ouvrage qu'il publie juste après. Donc c'est vrai que pour lui, cette prise de parole, il l'analyse aussi en chrétien. Parce qu'il y a aussi toute une partie du monde chrétien qui est très affectée, en fait, par mai 68. Donc c'est vrai qu'on est aussi dans une France où tout le monde ne prend pas la parole. Donc là, il analyse la séquence qui vient de se passer comme quelque chose avec empathie. Pour lui, il a été un spectateur engagé, on va dire, hein. Et donc il l'analyse avec empathie comme une forme de... disons de démocratisation d'une parole qui échappe aux seuls à ceux qui savent, ouais, hein, finalement à ceux qui savent. Donc ça, c'est évidemment cette grande ébriété, j'aurais envie de dire, de la parole en 68. C'est évidemment ce qu'on retient notamment de scènes comme au théâtre de l'Odéon ou à la Sorbonne, dans des espèces de discours
à n'en plus finir.
En même temps, c'est vrai que quand on a un usage de la parole quand même assez différent à l'époque, je trouve, c'est une langue qui... Alors là, je voudrais dire aux auditeurs à quel point cette langue de 68, les archives permettent de se rendre compte, n'a rien à voir avec la langue d'aujourd'hui. C'est une langue, c'est un français très... très différent, qui tout le monde parle très bien. Enfin, c'est un peu l'impression qu'on a comme ça, aussi bien d'ailleurs les étudiants que les ouvriers. Mais c'est vrai qu'il y a encore une sorte de timidité, hein, devant la prise de parole. Donc là aussi, on est dans un monde qui s'est complètement transformé.
Alors ce qu'il faut noter aussi, parce que vous analysez aussi les conséquences qu'a eu 68 dans le monde de la culture, Emmanuel Loyer, mais on peut dire aussi que mai 68 c'est le départ de quelque chose aussi, hein, dans la création, dans les idées, dans la façon de concevoir l'autorité, dans la façon de concevoir les rapports hommes-femmes. Alors, il y a eu plein de changements qui ont commencé en 68, non ? Qui sont développés dans les années 70 après.
Oui, oui. Non, c'est vrai que si on veut, essayer d'évaluer, comme on dit, les héritages de 68, il y a des domaines spécifiques où ils sont bien évidents. Je dirais le domaine de la pédagogie, c'est-à-dire justement le rapport entre apprenant et sachant, comme on dit dans le lexique pédagogie, la pédagogie, donc l'école, l'université. Du côté, si vous voulez, de la culture, comme on dit. Il y a des effets, en effet, de transformation, de conditions de production, disons, de l'art et aussi une sorte d'utopie de la création collective qui va finalement très vite
voir ses limites.
Voir ses limites, sauf dans certaines expériences concrètes de théâtre, par exemple, parce que peut-être ça s'y prêtait, des gens comme Ariane Nouchkine et des gens comme ça. Là, on peut dire qu'il y a un héritage très riche de 68. Pour ce qui est d'autres arts, par exemple, comme la littérature, etc., c'est moins évident, parce qu'évidemment, l'écriture, on a rêvé d'une écriture collective en 68, mais ensuite, on retourne à une écriture individuelle et signée, si vous voulez. Donc, ça, on peut faire une sorte d'inventaire, mais il est évident que les deux grands héritages politiques, vraiment, c'est d'une part une transformation de la réflexion sur le rapport entre l'homme et son environnement naturel, la naissance de l'écologie politique, et deuxièmement, et de façon peut-être encore plus évidente, la transformation qui est liée à 68, mais qui n'émerge presque pas en 68, plutôt juste après, dans les rapports entre les hommes et les femmes.
Et il faut souligner, on va terminer avec ça, Emmanuel Loyer, que 68, c'est une histoire collective. Je pense à ce terme, histoire collective, parce que j'ai sous les yeux un livre qui s'intitule Une histoire collective 62-80. Vous y avez participé aux éditions La Découverte. On a parfois l'impression que 68, c'est 2-3 personnes. Non, c'était vraiment une histoire collective.
Oui, c'est-à-dire que ça, je pense que c'est très important de dire que aujourd'hui, on a tendance, quand je dis on, c'est les historiens, je crois, réévaluent à la hausse, là encore, le nombre des vies qui, d'une manière ou d'une autre, a été affecté par mai 68. Et c'est vrai qu'on avait tendance à voir mai 68 comme essentiellement localisé autour des mondes étudiants. Et on se rend compte à quel point 68 a été, comme disent les sociologues, un moment critique, une crise finalement, où chacun était à sa place. Les gens se déplacent un peu par rapport à finalement la place qui leur est assignée dans la société. Et ces déplacements, il y en a beaucoup. Il y en a plus que ce qu'on pensait. Pour beaucoup de gens, qu'ils soient dans toutes les sphères de la société, 68 a permis ce déplacement, heureux ou malheureux d'ailleurs, parce que parfois c'est difficile aussi de reprendre le cours ordinaire des jours. Mais justement, on le reprend un peu différemment. Donc oui, c'est une histoire collective.
Emmanuel Loyer, merci. Je rappelle que vous avez écrit L'événement 68. Il est un livre publié aux collections de poche, accessible, publié chez Flammarion dans la collection Chant Histoire. Vous avez donc participé aussi à ce livre, Une histoire collective, 1962-1981. Livre publié aux éditions La Découverte, livre volumineux. Idée réalisée par Steven Hesley et Vanessa Rovensky. Vous pouvez évidemment nous écrire pour nous parler de 68, par exemple, à l'adresse suivante.
Idée au pluriel, @rfi.fr.
Je vous retrouve dimanche prochain pour de nouvelles idées. Et là, nous parlerons cette fois de Machiavel, mais dans un instant, un nouveau journal sur RFI.